Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie, vous êtes dans l'émission 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboires ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15 et nous sommes mercredi 27 mai ou jeudi 28 si vous nous écoutez en rediff. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Et au sommaire, aujourd'hui, j'ai interviewé Éric Neveu, qui est sociologue et politiste. Et ensemble, nous sommes revenus sur l'organisation des mouvements sociaux en France et sur leur manque d'impact démocratique. Manon, toi, tu nous parleras ensuite du nouveau nom donné au SOPK, le SMOP, une maladie hormonale qui touche plus de 10% des femmes.
Exactement, et on verra comment un simple changement de nom peut améliorer la prise en charge de cette maladie.
Et ce sera aux alentours de 12h40 sur Canal B, alors restez avec nous.
Waouh, qu'est-ce qu'il fait chaud!
Pour une fois, qu'il fait plus chaud qu'à Brest qu'en Corse, les Bretons, je vous conseille de profiter, là on explose notre capital soleil.
Non mais plus sérieusement, cette canicule est difficilement vivable pour toutes et tous, d'autant plus que les températures ont augmenté brutalement. Alors évidemment, on peut penser aux personnes âgées notamment qui sont à risque, mais malheureusement, elles sont loin d'être les seules.
Et oui, la canicule touche tout le monde.
Et même ceux qui seront déjà en sueur pour d'autres raisons, demain, jeudi 28 mai, aura lieu l'épreuve écrite du baccalauréat professionnel, sous des températures très très chaudes. Alors ça pose question évidemment, est-ce qu'à partir d'une certaine température on doit considérer que les conditions sont trop dures pour écrire un examen et ou rester assis plusieurs heures dans des salles sans ventilation ? Faudrait-il reporter ces examens de quelques jours et dans quelle mesure est-ce possible ? Bref, des questions que l'on se pose en ce moment.
Et on est seulement au mois de mai et si je me souviens bien, il y avait eu des discussions pour diminuer les vacances d'été.
Oui, le débat a été renvoyé en 2027 après les élections présidentielles et concrètement l'idée serait de faire passer les vacances d'été de 2 mois à 4 voire 6 semaines. Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, y sont favorables.
Mais pourquoi réduire les vacances scolaires ?
Eh bien, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale, le niveau des élèves baisserait ou stagnerait pendant les vacances scolaires d'été, notamment en mathématiques, et ce parce que les vacances seraient trop longues. Enfin, cette étude a été réalisée sur un seul niveau scolaire, donc sur le passage de la classe du CP au CE1, et sur la seule année scolaire 2020-2021. Qui était l'année du Covid.
Et donc, sur la base de cette étude, le président serait favorable à raccourcir les vacances d'été.
Oui, et donc, a fortiori, à condamner les élèves à passer ces fortes chaleurs assis sur une chaise, voire à passer des examens, alors que la seule chose à laquelle on pense, on est d'accord Julie, c'est bien de manger une grosse glace à la pistache sur la plage.
c'était Feels Like Summer de Childish Gambino sur le 94 FM. Le titre résume à lui seul la météo du moment. Et tout de suite, place à l'interview du jour avec Éric Neveu, sociologue et politiste. Et ensemble, nous avons parlé de l'organisation des mouvements sociaux en France et notamment de leur manque peut-être d'impact sur la démocratie. À chaque grand mouvement social, un souffle de mai 68 résonne parmi les manifestants. Pourtant, certaines mobilisations, bien que très populaires, semblent être dépossédées de cet héritage, notamment à cause de leurs échecs. Dans la rue, les gilets jaunes ou la manifestation contre la réforme des retraites se sont vus violemment réprimés, en plus d'avoir échoué politiquement. Sur les réseaux sociaux, les pétitions contre les lois Yadan et Duplomb, malgré une mobilisation massive, n'ont pas non plus obtenu gain de cause. Les moyens de mobilisation se multiplient, mais leur impact semble régresser. Aujourd'hui, dans 3 en 1, nous recevons Éric Neveu, sociologue et politiste, pour aborder la question suivante: est-ce que les mouvements sociaux ont encore un impact significatif sur la politique en France? Éric Neveu, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, on va revenir un peu sur la définition de mobilisation sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui caractérise un mouvement social?
Un mouvement social, donc, ce sont des groupes, ce qui peut supposer un minimum d'organisation, qui décident d'agir ensemble pour défendre une cause ou une revendication, et qui le font avec ce qu'on appelle dans le jargon sociologique des répertoires particuliers, c'est-à-dire que ce n'est pas des formes de participation politique qui sont symbolisées par le vote et ces choses-là. Répertoire, ça veut dire c'est la manifestation de rue, c'est l'occupation d'un lieu public, c'est le boycott, c'est la pétition. Et dans l'idée de répertoire, avec la connotation musicale, il n'y a pas simplement l'idée qu'il y a toute une palette d'actions possibles, mais il y a aussi le fait qu'on peut les interpréter différemment. Il peut y avoir des manifestations rigolotes, des manifestations violentes, des manifestations traîne-savates. Donc il y a toute une palette d'actions possibles.
Le 3 mai dernier, dans l'émission La Dernière de Radio Nova, le philosophe Geoffroy de Laguenerie qualifie mai 68 de dernier mouvement conquérant, c'est-à-dire un mouvement où le peuple se mobilise pour des droits. Il l'oppose au mouvement plus récent dans lequel la mobilisation s'organise contre un projet ou une réforme. Est-ce que depuis mai 68, cette définition du mouvement social, elle a évolué?
Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on pourrait dire que pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, donc on va quand même aller au-delà de 68 jusqu'à la fin des années 70, les mouvements sont plutôt proactifs, ce qui veut dire que souvent ils réclament des droits nouveaux qui n'existaient pas auparavant, et souvent ils les obtiennent au terme de séquences de lutte. Je pense à l'avortement, au droit à l'avortement, pour ne donner que cet exemple-là. Et que ensuite, dans la période qui s'ouvre avec les années 80, qu'on a des fois appelé les 30 piteuses, et on y est encore, on est plus sur des mouvements qui sont défensifs, c'est-à-dire qui se mobilisent plus souvent pour empêcher qu'on rogne des droits existants que pour arriver à obtenir des droits nouveaux, même si c'est pas si simplet et si mécanique que ça.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre la participation active et le mode défensif?
Je pense que les contextes ont changé. Alors, probablement, paradoxalement, du fait de la victoire de la gauche en 81 et éventuellement de la part de déception, c'était pas si beau que l'avaient espéré beaucoup de gens qui avaient voté pour la gauche. Il y a une espèce d'incertitude ou d'hésitation sur la capacité des partis à porter le changement politique. Il y a un affaiblissement considérable des syndicats qui étaient des acteurs très importants des mobilisations. Et il y a quand même l'affaiblissement ou la décomposition de cet acteur central qui était le monde ouvrier dans les manifestations. Et puis, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais bon, le monde change effectivement à ce moment-là.
Et justement, en France, le droit de manifester, il est encadré par la loi. Il faut faire une déclaration auprès de la préfecture, suivre un tracé et un horaire précis. Quel est l'intérêt pour un État de rendre prévisibles ces mobilisations?
L'idée, c'est d'encadrer... on va dire pour des raisons d'ordre public, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais par exemple, tout simplement pour gérer la circulation en ville, pour ne prendre que cet exemple-là, et éventuellement, s'il y a une suspicion fondée ou pas fondée, que la manifestation peut déborder ou prendre des formes violentes, pour pouvoir placer un dispositif policier pour essayer de l'encadrer. Enfin, si je vais donner un chiffre, il n'est sûrement pas le bon, mais à Paris, il y a tous les jours au moins une dizaine de manifestations différentes. Alors souvent, c'est des micro-manifestations, il n'y a pas plus de 100 personnes, mais si on a 20 ou 30 manifestations dans un espace urbain confiné le même jour, organiser un peu ça, c'est pas complètement inintelligible.
Donc face à cet encadrement, on va dire que certaines personnes se sentent un peu frustrées. Je pense notamment aux Gilets jaunes qui se sont mobilisés, eux, sur des terrains communs. Donc ils ont organisé plutôt des blocages et l'occupation de ronds-points, par exemple. Est-ce que ce mode d'action plus spontané, entre guillemets, il est plus efficace ou plus pertinent, on va dire, pour ces personnes-là?
Bah, ça, c'est une discussion qui existe à la fois au sein des acteurs qui sont mobilisés et au sein des gens qui étudient les mouvements sociaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la thèse qui dirait plutôt une organisation au sens d'une structure de coordination, éventuellement avec des échelons verticaux, national, régional, etc. Et un mouvement qui est relativement cohérent, qui n'est pas tiré à UADIA par des fractions différentes. Là, il est prouvé que statistiquement, il a à la fois plus de chances d'être reconnu par les pouvoirs publics comme interlocuteur et d'obtenir au moins une partie de ce qu'il demande. Et vous avez une autre approche qui est symbolisée par deux sociologues américains, Piven et Cloward, qui disent la spontanéité, c'est ce qui rend un mouvement hautement éruptif, comme une matière explosive, et c'est ça qui donne peur aux puissants. Donc si vous voulez trop organiser le mouvement, ça revient à le museler, à le canaliser. Il y a quelque chose comme une espèce de puissance dévastatrice des masses qui peut exister. Bon, parce que d'une certaine manière... Enfin, le mouvement des Gilets jaunes peut illustrer. Si le mouvement des Gilets jaunes obtient un certain nombre de résultats, bon, c'est qu'il est durable, c'est qu'il est puissant, mais c'est aussi qu'il est perçu comme incontrôlable et extrêmement dangereux par les pouvoirs publics. Et en même temps, si on fait le bilan, on peut dire que son incapacité à se donner des porte-parole, à s'organiser mieux, a été une faiblesse.
Est-ce que donc pour que les mouvements sociaux, on va dire plus spontanés, aient vraiment un impact sur la politique, est-ce qu'il faut qu'ils aient un représentant, quelqu'un qui va représenter leur voix ou leur message ?
Alors, il y a plein de façons d'être représentant. On peut aussi, enfin, à un moment, les mouvements verts ont essayé de le faire. On peut aussi avoir des représentants qui tournent, ou on peut avoir des représentants qui sont révocables s'ils prennent des positions que la base juge infidèles à ce qui était demandé. Le risque, c'est toujours que le représentant confisque le pouvoir du groupe, mais à certains égards, il n'y a pas de groupe sans représentant. C'est aussi le représentant qui fait tenir le groupe. Donc, à mon avis, toute la discussion, c'est d'arriver à inventer des formes de délégation qui ne soient pas confiscation du pouvoir, qui ne soient pas bureaucratisation. Bon, ce qui est très difficile, parce que très souvent, justement, ceux qui ont essayé, c'est un peu l'histoire de beaucoup de syndicats, si on remonte au 19e siècle, ou si vous prenez les groupes verts depuis les années 70, souvent ça a fini par la bureaucratisation et la confiscation du pouvoir par une hiérarchie. Mais je pense, on va parler tout à l'heure des mouvements liés à Internet. Enfin, c'est aussi un des problèmes des mouvements liés à Internet. Quand personne n'est habilité à un moment à dire « nous voulons ça, nous sommes prêts à telle conciliation », vous ne pouvez pas aboutir.
C'était Tropique de Muriel Dac sur le 94 FM, un titre de 1985 qui devrait rappeler des souvenirs d'été à nos auditeurs les mieux conservés et qui est par ailleurs aussi le petit péché de Manon. En tout cas, c'est une programmation musicale qui est toujours en rapport avec l'actualité. Vous êtes toujours dans 3 en 1 et on retourne en plateau avec Éric Neveu. Ensemble, nous parlons de l'organisation des mouvements sociaux en France et de leur impact démocratique. Ces mouvements sur Internet dont vous parliez justement ont révolutionné la manière de se mobiliser. Je pense au printemps arabe ou alors en Indonésie l'année dernière. Pourquoi, selon vous, ne sont-ils pas aussi révolutionnaires dans leur impact sur la politique ?
Sur cette question des mouvements très largement portés par les réseaux sociaux et Internet, bon, il y a une sociologue turque, Zeynep Tufekci, qui a écrit des choses très malines. C'est un livre qui est traduit en français, qui s'appelle Twitter et gaz lacrymogène. Elle dit trois choses qui me paraissent justes. C'est-à-dire que un effet des réseaux sociaux, c'est ce qu'elle appelle une capacité disruptive, c'est-à-dire une capacité de mobiliser dans des délais qui sont relativement courts par rapport à des formes classiques d'organisation, un très grand nombre de gens, là où il faudrait peut-être des mois et des années pour construire quelque chose brique à brique dans des formes plus traditionnelles. Elle dit aussi que ça a un énorme pouvoir informationnel, c'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux, tout ce qui est posté dessus à un moment, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même 4 millions de personnes sur les différentes boucles Facebook, locales ou nationales des Gilets jaunes. Donc il y a un énorme espace d'échange d'expériences, de circulation d'images, de textes, d'appels à l'action. Mais ce qu'elle dit aussi, et on revient à l'histoire des processus de décision, c'est que c'est très souvent des mouvements qui sont relativement impuissants, ou en tout cas dont les impacts sont en deçà de la vague qu'ils ont suscitée, parce que justement il y a cette culture de l'horizontalité qui a de très bons côtés. Moi, je ne suis pas un léniniste qui plaide pour la verticalité. C'est très bien le débat, l'horizontalité, l'échange, la confrontation. Mais à un moment, en fonction d'une évolution des pouvoirs publics, d'une offre de négociation, d'une situation où on peut faire aboutir une partie des revendications, bah c'est très utile d'avoir des lieux où quelqu'un peut dire « bon bah ok, on passe un accord dans ces termes-là ». Si dès qu'un groupe ou des individus essaient de s'instituer en porte-parole, ils se font fusiller par la base comme étant des traîtres et des manipulateurs, ça peut pas marcher. Alors moi, je vous parlerai pas d'Indonésie, parce que oui, je vois ce que c'est, mais j'ai pas vraiment beaucoup lu là-dessus. Mais un des rares mouvements qui, au départ, fonctionnait sur Internet et qui a eu des résultats très efficaces, c'était en Corée du Sud. Le mouvement dit des chandelles, puisqu'ils ont viré la présidente, ce qui n'est pas rien. Mais s'ils ont réussi à faire ça, alors c'est très contrariant par rapport à l'idée de mouvements sociaux purs qui ne se mettent pas qui n'ont pas de lien avec des forces moins sympathiques, c'est qu'ils ont été relayés par un certain nombre de partis politiques et que dans le système politique coréen, il y a des contre-pouvoirs institutionnels, notamment une cour constitutionnelle qui est beaucoup plus efficace que la nôtre, qui pouvait prendre des mesures et des sanctions en étant aussi appuyé sur la légitimité d'une énorme mobilisation.
Mais si on revient à la France, est-ce que elle ne manquerait pas de contre-pouvoir justement ? Parce que quand des pétitions comme celle contre la loi Yadan ou la loi Duplomb, qui ont réuni des millions de personnes sur Internet, n'ont pas réussi à obtenir gain de cause, on peut se poser des questions sur l'efficacité de ces moyens de participation à la vie politique.
Oui, enfin, on a une constitution qui est la constitution probablement la plus monarchique d'Europe et une des caractéristiques du système français, enfin, c'est l'indigence des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que on le voit même maintenant, alors que le Parlement n'est pas aligné sur le président de la République. Bon, il a un pouvoir de nuisance, mais il n'a pas un pouvoir de faire basculer complètement les rapports de force. On a un pouvoir judiciaire ou juridictionnel, que ce soit les tribunaux judiciaires, que ce soit les tribunaux administratifs ou même le Conseil constitutionnel, qui sont extraordinairement faibles et timides à défendre les libertés, à faire contrepoids, par rapport à ce qu'on observe dans des pays comparables, Allemagne, etc. On n'a pas en France de système de référendum d'initiative populaire comme ça peut exister en Suisse ou en Italie. Donc, on est dans un pays où il y a une faiblesse absolument pathologique des contre-pouvoirs qui est dramatique et où il n'y a pas de relais. Bon, les collègues suisses disent en rigolant que l'effet de ce qu'ils appellent les votations, c'est-à-dire les référendums d'initiative populaire, c'est que les projets sont toujours battus. Mais c'est des petites graines qui sont semées et qui aboutissent plus tard. Et effectivement, en Suisse, il y a beaucoup plus de votations qui échouent que de votations qui réussissent. Mais si on prend le temps long, on voit que souvent, ce qui n'a pas réussi à passer par un vote direct et populaire, ça va donner une loi, peut-être un peu édulcorée, mais une loi 5 ou 6 ans après. Donc oui, on est en France dans un système où l'absence de contre-pouvoir est même franchement terrifiante si on pense à la possibilité d'une élection du Rassemblement national à la présidence de la République l'an prochain.
Et je vais être très pessimiste, mais du coup, à quoi ça sert en fait de continuer à se mobiliser si on sait que le contre-pouvoir, il n'est pas forcément bien garanti en France ?
Bon, d'abord, toutes les mobilisations n'échouent pas. Enfin, les Gilets jaunes n'ont pas obtenu leurs revendications les plus centrales sur une réforme fiscale, sur le référendum d'initiative citoyenne. Mais enfin, ils ont quand même eu un peu plus que des pièces jaunes en termes de mesures financières qui ont été proposées à la fin du mouvement. Donc il y a encore des mouvements qui obtiennent des résultats. Bon, le fait d'ailleurs qu'ils en obtiennent moins, c'est pas simplement un problème de frustration. Je pense que c'est aussi un problème démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, le dernier grand mouvement qui a obtenu des résultats, qui a enrayé une loi, c'était la mobilisation sous le contrat première embauche qui établissait un SMIC inférieur pour les jeunes. Ça, c'était 2005, Villepin, si mes souvenirs sont bons. Depuis, c'est vrai qu'avec des niveaux de mobilisation qui pouvaient être très élevés, si on pense aux lois travail, aux réformes des retraites, les mobilisations se sont heurtées à un mur, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce que si des mobilisations qui ont le soutien de l'opinion publique attestées par les sondages, la réforme des retraites, c'était 70% des gens qui étaient contre la réforme Macron, où il y a d'énormes mobilisations de façon durable. Et si en gros la réponse des pouvoirs publics c'est « on n'en a rien à cirer de vos déplacements dans la rue », ça ne peut qu'inciter à la violence et ça ne me paraît pas une stratégie d'une haute intelligence.
Pourquoi ça vous paraît pas d'une haute intelligence, la violence, justement ?
Ah non, je veux dire, donc, de la part des pouvoirs publics, créer les conditions pour rendre la violence désirable, c'est particulièrement stupide. Quant à la violence, je pense que dans un certain nombre de cas, elle peut être efficace et que beaucoup de grands changements ont été obtenus par des rapports de force. Alors, la violence, ça ne veut pas forcément dire faire couler le sang, mais ça peut vouloir dire occuper des lieux publics, se confronter aux autorités et aux forces de l'ordre. Mais je pense que, un historien ne me contredirait pas, pour que la violence soit efficace, il faut qu'elle soit vraiment massive, qu'elle soit portée par un mouvement et une croyance qu'on peut faire changer les choses. C'est pas la violence de 50 guignols qui des vitrines en centre-ville.
Et est-ce que la violence en manifestation, et notamment celle venant des forces de l'ordre, ne dissuaderait pas aussi, à une autre échelle, la participation aux mobilisations sociales ?
Quand le réflexe de la police française, c'est d'arroser tout le monde de lacrymo, en veux-tu, en voilà, ce qui a aussi pour effet souvent de radicaliser une part, ça fait peur à certains, et d'autres se disent plutôt que si c'est comme ça, la prochaine fois ils viendront avec des boulons dans les poches ou je ne sais quoi. Donc il y a un mode de maintien de l'ordre français qui est très décalé des évolutions des modes de maintien de l'ordre dans les autres pays européens et qui est profondément contre-productif. Je vais dire une chose très naïve, moi je pense que la meilleure protection des policiers dans un pays démocratique, c'est le fait qu'on les respecte. Et pour être respecté, il faut se comporter d'une façon qui alimente le respect et qui est respectable, ce qui n'est pas le cas dans tous les épisodes méthodes de maintien de l'ordre qu'on peut expérimenter.
Eh bien, je vous remercie, Éric Neveu. Je le rappelle, vous êtes sociologue et politiste. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, on parle santé avec la chronique de Manon. Alors Manon, tu vas nous parler du SOPK, ou plutôt du SMOP, c'est ça ?
Exactement. Le SOPK, ça signifie syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble hormonal dans lequel une hyperandrogénie, donc c'est un excès d'hormones sexuelles masculines dans le sang d'une femme, entraîne donc plusieurs choses, donc une irrégularité des règles, des troubles de l'ovulation, une infertilité, une hyperpilosité sur le visage ou le reste du corps, et ou de l'acné. Et cette maladie hormonale touche 10 à 13% des femmes. Et le 12 mai dernier, le SOPK est devenu le SMOP pour syndrome métabolique ovarien polyendocrinien.
Et pourquoi une pathologie changerait subitement de nom ?
Eh bien, ce nouveau nom devrait permettre une meilleure prise en charge de cette pathologie. Pour commencer, le changement de nom permet de mieux expliquer ce qu'est la maladie, car dans syndrome des ovaires polykystiques, il y a le mot kyste. Or, les personnes malades n'ont pas de kyste dans les ovaires. En fait, ce sont des follicules ovariens immatures dont le développement s'est arrêté trop tôt. Donc, quand on entend SOPK, on pense problème aux ovaires, mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est un trouble hormonal et métabolique complexe qui commence tôt et dure toute la vie.
Et ce nouveau nom, c'est quoi déjà ? Syndrome métabolique ?
Quand on prend SMOP lettre par lettre, c'est plus simple à comprendre. En fait, le S, c'est pour syndrome, le M pour métabolique, car il y a un risque de diabète et de maladie cardiaque. Ensuite, il y a le O de ovarien, pour ce qui est des troubles de l'ovulation, avec des cycles qui sont souvent très longs, et du coup les troubles d'infertilité. Et enfin, on retrouve le P de polyendocrinien, qui fait référence aux multiples systèmes hormonaux impliqués.
Et donc si on retourne à la question de départ, pourquoi le nom qu'on donne à une maladie est si important pour la prise en charge des malades ?
Parce que ce n'est pas un simple nom, en fait il indique aux médecins dans quelle direction ils doivent regarder, ça guide aussi les chercheurs sur les pistes à étudier et ça permet aux personnes atteintes du syndrome de SMOP de mieux comprendre ce qu'elles ont. Auparavant, quand on annonçait à une femme qu'elle souffrait d'un SOPK, on lui annonçait que ses symptômes étaient liés à un problème de fertilité ou de poids et le diagnostic y prenait en moyenne plus de 2 ans. Désormais, avec le terme SMOP, le caractère multisystémique de cette maladie est pris en compte et donc maintenant il faudrait que les médecins généraliste ne se limite pas à la simple observation des cycles menstruels, mais bien qu'il et elle vérifient les taux d'insuline, la glycémie, la tension artérielle et le bien-être psychologique lors de l'examen et du diagnostic des patientes. Le changement de nom de la maladie permet d'aller dans cette direction.
Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver un article sur le sujet sur le site The Conversation. Et 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Éric Neveu d'avoir répondu à mes questions dans les studios de Canal B et merci à Manon pour ta chronique. On se retrouve lundi prochain, 12h15. En attendant, l'ensemble des émissions de 3 en 1 est à retrouver sur canalb.fr, tout comme le reste des émissions de la station. Bonne journée sur le 94 FM.